Oh que oui, 10h03, bienvenue dans le Point de Max à Boulevard 102.1. On s'installe ensemble pour les deux prochaines heures. C'est la première de la semaine du Point de Max avec moi, parce que hier, puis un gros merci à Jeff, à Mathias. C'était Jeff Fortin et Mathias Turcotte qui ont tenu le fort, qui se sont tapés un 8 heures de radio en ligne à Boulevard 102.1 avec le Morning, le Point de Max et on en jase le midi en mon absence. Et en l'absence également, si je peux dire ça comme ça, des deux nouvelles voix que vous pourrez entendre dès lundi à Boulevard 102.1, Nicolas Lacroix et Catherine Saint-Laurent. Plus de détails un petit peu plus tard dans le show pour ceux qui ont manqué tout ça ce matin. 88-971-1021. Êtes-vous content des annonces? Pour ma part, ben, je vais me contenter de vous dire à l'instant, parce que comme je vous dis, là, on reviendra tantôt avec plus de détails. Je vous ferai jouer là, l'annonce qui a eu lieu ce matin où vous avez pu entendre pour la première fois à Boulevard 102.1 Cat Saint-Laurent et Nico. Mais c'est ça, pour le Point de Max, ce qui change, c'est la Catherine, je vais le dire de même. Catherine Bachand, qui aura passé quelques mois avec moi, ça aura été un immense plaisir. Et dès lundi, ben, c'est Catherine Saint-Laurent qui va se joindre au Point de Max avec moi dès 10h. Donc, un immense plaisir. Ben, hâte de travailler avec Catherine, que je connais déjà un petit peu. On s'est déjà croisé à quelques reprises dans les dernières années. C'est quelqu'un qui a étudié à la même place que moi, mais une année ou deux. Elle a fait ses débuts à Jonquière une année ou deux après moi. Fait qu'on s'est comme vraiment juste croisé. Puis après ça, dans les dernières années, on a eu l'occasion de se voir là, dans différentes occasions aussi. Mais c'est ça, ben, hâte à partir de lundi de collaborer dans le Point de Max avec Catherine Saint-Laurent. Ça va me faire un plaisir d'y laisser une très belle place dans le show. Et que dire de Nicolas Lacroix, que vous pourrez aussi entendre de temps en temps dans le Point de Max. Puis dans le cas de Nicolas, c'est surtout le midi que je vais avoir la chance de travailler avec lui parce que ce sera jeudi mon dernier matin à Boulevard ou à moins de remplacement et tout ça. Là, vous connaissez la game, mais officiellement, je quitte le show du matin de Marceau le matin. Lundi, j'aurai pas d'alarme à 3h40, bien exactement le matin. C'est... Ce côté-là, je vous mentirai pas, que je chialerai pas sur le fait de plus me réveiller à 3h40 le matin. Mais quand t'es un kid qui rêve de faire de la radio, qui rêve de faire un morning show, particulièrement à Québec, c'est sûr que de le quitter, il y a quand même un côté plus émotif, je veux dire, à ce côté-là. Mais je l'aurais fait pendant 5 ans, puis rien dit que je ne le referais pas un jour le matin à Québec. Mais bien content de l'avoir fait pendant 5 ans. Puis là, bien, tout ça pour dire qu'avec Nicolas Lacroix, j'aurai la chance de collaborer en masse le midi avec Jeff Fortin, Nico et moi-même. Fait que c'est surtout en onde entre 10h et 14h que vous pourrez m'entendre dès lundi à partir de la rentrée radio à Boulevard. Mais vous pourrez encore m'entendre dans Marceau le matin aux alentours de 9h tous les jours pour une chronique de sport. Et même chose, dans le retour, chronique de sport à tous les jours. Fait que des petits changements, mais c'est que du beau pour l'avenir de Boulevard 102.1. On s'installe donc maintenant pour le Point de Max. C'est sous le soleil qu'on fait ça à Québec, 21 degrés, 25 au ressenti. Le maximum au thermomètre aujourd'hui est à 25 degrés. Ce soir et cette nuit, on descend à 14, mais demain, c'est un 24 degrés, 60% de possibilité d'averse. Puis après ça, c'est un beau week-end qui s'en vient, du moins en partie. Je commence ça jeudi, 24 degrés, gros soleil. Jeudi, c'est le match Boulevard au Capitale de Québec, fait qu'on devrait avoir une super belle météo. C'est une excellente nouvelle. Vendredi, 23 degrés ensoleillés. Samedi, 24 degrés ensoleillés. Il y a dimanche où c'est un petit peu moins beau à date avec 19 degrés et de la pluie. Mais vraiment, là, pour jeudi, vendredi, samedi, c'est de la très belle météo. À la circulation, 20 ouest, un petit ralentissement dans le coin de Chemin des Îles et de Taniata. En 4 sud, mini ralentissement hauteur de la 40, je le dis, rien que pour le dire, là, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça va assez bien. 10h08, Donc, dans le Point de Max, on va aller faire un petit tour des grosses nouvelles du jour. Le temps de vous dire qu'on va jaser encore une fois cette semaine à tous les jours avec l'ami Georges Mercier, analyste politique à 10h40. Et aujourd'hui, ben le gros sujet, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui s'engage à ne pas tenir de référendum tant que Donald Trump sera président des États-Unis. C'était ça ce matin, la déclaration du chef péquiste par rapport à un éventuel référendum. La première chose qu'il voulait clarifier, parce qu'il y en a qui en doutaient encore, oui, un gouvernement du Parti québécois va consulter les Québécois sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat s'il est élu. Fait que là-dessus, Paul Saint-Pierre Plamondon reste super clair. Il y aura un référendum dans un premier mandat. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon voulait aussi clarifier les informations par rapport au moment précis de cette consultation-là, de ce référendum-là. Il écrit qu'au cours des derniers mois, il s'est déjà exprimé sur le fait que le Parti québécois allait exercer son jugement pour choisir le moment de la consultation, mais qu'il ne s'est pas, c'était pas exprimé encore formellement sur le point suivant, et c'est là qu'il le dit, mot pour mot, noir sur blanc, un gouvernement péquiste ne tiendrait pas de référendum tant que Trump sera président des États-Unis. Il y en a qui parlent de recul. Denis Gravel, ce matin, dans le Pit Stop, parlait d'un pied que tu mets dans la porte qui va te permettre après ça de passer dans la porte au complet sur éventuellement un report de la question référendaire. Moi, honnêtement, je vois juste ça comme une confirmation de ce qui avait déjà été dit de façon un petit peu moins claire. Il y a quelques mois de ça, Paul Saint-Pierre Plamondon l'évoquait, ça, le contexte avec Donald Trump aux États-Unis. Puis à partir de ce moment-là, puis même avant, moi, j'ai tout le temps été... J'ai jamais eu dans la tête qu'un référendum serait dans la première ou dans la deuxième année de mandat. Ça, pour moi, ça a toujours été super clair. Fait que moi, ce matin, j'apprends absolument rien. Je sais pas pour vous, 88-971-1021, est-ce qu'il y en a qui le voient comme un recul? Ou comme moi, ben vous aviez déjà l'impression que ça allait être ça, un référendum qui allait venir dans la dernière année de mandat, alors que Trump serait plus là. Quand même, curieux de vous lire, 88-971-1021. On va en jaser, comme je vous disais, un petit peu plus tard avec l'ami Georges Mercier. Sinon, ben dans l'actualité, c'est sûr que c'est ça là, qui retient le plus d'attention. Bon, il y a l'histoire de Katy Perry et Justin Trudeau qui bénéficient d'une protection policière mondiale aux frais des contribuables. C'est dans le Journal de Québec qu'on peut lire ça ce matin. Là. C'est comme la norme là, pour le fédéral d'offrir une protection aux anciens premiers ministres. Brian Mulroney, Jean Chrétien, Stephen Harper en ont profité. Il y en a qui ont dit non, Joe Clark, John Turner. Mais c'est la norme pour la GRC d'offrir une protection aux anciens premiers ministres. Là, ce qui fait réagir, ben, c'est qu'on voit Justin Trudeau avec sa belle Katy Perry. Puis là, il y en a beaucoup qui, hier, ont réagi là, sur la fameuse danse dans Quincaillerie avec le siphon de toilette, trois choses. Fait que ça fait réagir. Katy Perry, Justin Trudeau, c'est sûr qu'il y a des clics à faire avec ça. Fait que je suis pas surpris de voir cette nouvelle-là sortir aujourd'hui, puisque ça me choque pas plus que ça. C'est un peu la norme, comme je vous disais. Mais bref, ça fait réagir. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tard, on va jaser avec l'ami Georges Mercier, analyste politique. Pour l'instant, ben, au retour de la pause, ben, je vous fais réentendre les deux petits nouveaux à Boulevard 102.1. Nicolas Lacroix, que vous pourrez entendre avec une chronique le matin, que vous pourrez entendre aussi dans le Point de Max à une heure bien précise. On vous en reparlera. Et surtout, le midi. De midi à 14h dans On en jase avec Jeff Fortin et moi-même. Ça faisait partie des annonces ce matin à Boulevard. Le Point. C'est lundi 24 août que se déroulera officiellement la rentrée radio à Boulevard 102.1 et ça va se faire avec quelques petites modifications, mais surtout des ajouts, notamment dans le Point de Max où je vais accueillir une nouvelle co-animatrice. Les annonces qui ont eu lieu un petit peu plus tôt avec Marceau, avec Denis, avec les deux principaux intéressés, avec Steven Croato, directeur de la programmation également. Je me suis dit, pourquoi pas vous offrir de réentendre ce qui s'est dit ce matin, particulièrement par les deux principaux intéressés.
Denis Gravel, est-ce que tu es au bout du fil?
Hello, hello!
Salut mon ami, content d'être là. C'est une grosse journée pour Boulevard, c'est une belle journée pour Boulevard. Permets-moi...
On a pris la bonne habitude au courant de la semaine passée de jaser à tous les jours aux alentours de 10h40 des gros sujets d'actualité politique de la journée, que ce soit au provincial, fédéral, à l'international avec l'ami Georges Mercier, analyste politique. C'est une habitude qu'on garde cette semaine et qui sait, peut-être aussi pour les prochaines semaines. C'est sûr que vous allez continuer d'entendre Georges Mercier dans le Point de Max. Georges, salut!
Salut Max.
Gros matin d'actualité. On attendait tous à 7h30, oui, l'annonce de la nouvelle programmation à Boulevard 102.1, mais aussi Paul Saint-Pierre Plamondon voulait sa partie du spotlight parce qu'il a annoncé hier soir qu'il allait faire une annonce à 7h30 ce matin, lui également. Et là, ben, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains disaient, bon, voilà, Paul Saint-Pierre Plamondon recule finalement sur sa promesse de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec dans un premier mandat. Assez rapidement, il y a notamment La Presse qui est sortie avec des informations à l'effet que ce serait pas le cas, qu'il n'allait pas être question d'un recul là-dessus. Mais quand même, il y en a ce matin qui parlent d'un recul du Parti québécois parce qu'il s'engage à ne pas tenir de référendum sur l'indépendance tant que Donald Trump sera président des États-Unis, donc jusqu'en janvier 2029. Me semble que il y a rien de nouveau là-dedans. On vient clarifier quelque chose, mais c'était déjà évident qu'il n'y aurait pas de référendum tant que Trump serait là. C'est pas un... Moi, je le vois pas comme un recul. Je sais pas de ton bord, là.
Ben moi, je suis 100% d'accord avec toi. Pour qu'il y ait eu un recul, il aurait fallu qu'il annonce une date qui aurait été plus hâtive, qui change sa date maintenant. À ma connaissance, le PQ s'est jamais prononcé sur le moment de la consultation, du référendum, de la question dans un premier mandat. La ligne de PSCP, c'était de dire il y aura consultation dans un premier mandat. Là, tout ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est ajouter une condition au moment de cette consultation-là, à savoir lorsque Donald Trump ne sera plus président des États-Unis. Et honnêtement, Max, moi, je lis des indépendantistes sur mes réseaux sociaux qui poussent des cris d'orfraie, qui pensent justement, eux, que c'est un recul, qui en veulent à PSPP. J'ai ben de la misère à comprendre à quel point il faut être déconnecté de la game politique au Québec pour en vouloir au chef du Parti québécois d'offrir une forme de garantie, une forme d'une manière de rassurer les Québécois par rapport au référendum dans un contexte où il y a un immense paradoxe dans la politique québécoise actuelle, c'est qu'on a un chef de parti qui est clairement en tête dans les intentions de vote, notamment chez les francophones, mais qui est porteur d'une option politique qui séduit une partie significative de l'électorat, ça il faut le dire, mais qui est pas prioritaire pour à peu près personne, mais qui est prioritaire pour à peu près personne. Donc ça me semble une mesure tout à fait rationnel, tout à fait responsable, tout à fait mature. Parce que j'ajouterais un point où nos amis indépendantistes un peu pressés qui nous écoutent. Tu sais, la job du PQ, Max, si le PQ veut faire l'indépendance, c'est d'abord et avant tout de former un gouvernement. Puis d'abord et avant tout de former un gouvernement majoritaire pour avoir les coups des franches, pour réussir à mettre en place les conditions d'un référendum qui aurait une chance de l'emporter. Et bon, si PSPP peut améliorer ses chances d'avoir un gouvernement majoritaire comme ça, eh bien, de grand bien lui fasse.
J'ai quand même hâte de voir comment ça peut peut-être ou pas changer la dynamique de la campagne. Parce que pour moi, ça ne changera rien dans le sens où les adversaires peuvent encore jouer sur la peur du référendum. Alors que si Paul Saint-Pierre Plamondon était arrivé et avait vraiment reculé en disant « Hey, savez-vous quoi? On n'en fera pas dans un premier mandat un référendum », ben là, on venait changer toute la dynamique. Là, en étant seulement venu clarifier qu'on fera pas ça dans les premières années, qu'on allait au moins attendre que Donald Trump parte, ben les adversaires peuvent encore jouer exactement la game qui est prête dans leur cahier de jeu depuis des mois et des mois, pour ne pas dire peut-être des années, la peur du référendum. Pour moi, ça change pratiquement rien ce qui a été annoncé ce matin ou clarifié.
Non, mais ça donne d'abord une réponse de la part du Parti québécois. Si dans un débat des chefs, si durant la campagne électorale, Charles Milliard ou Christine Fréchette, peut-être même Ruba Gazal, devait sortir la carte du référendum, là, le PQ pourrait répondre, écoutez, on a été clair là-dessus, c'est pas avant que Trump quitte, donc c'est pas avant au moins deux ans et demi. Donc d'abord, il y a cette réponse-là qui est toute faite, qui est facile. Ensuite, il faut aussi noter une chose. Le PQ a été très astucieux, même avant l'été, pour mettre sous le tapis la question référendaire. C'est pas pour rien qu'on a sorti le livre bleu avant l'été, le livre bleu qui explique les tenants et les aboutissants de l'indépendance, avant le début officiel de la campagne électorale, avant l'été. L'idée, c'est de dire, voici un document où vous avez des réponses à vos questions. On y a répondu, ce ne sera pas le thème principal de la campagne électorale. Parce qu'on est conscient au PQ, paradoxalement, que l'indépendance n'est pas un enjeu gagnant d'un point de vue électoral si on veut former un gouvernement majoritaire. Donc, on vient de faire deux choses. On concentre les réponses dans un document, puis on réfère les questions à ce document-là. Et au même moment, on donne une forme de clarté sur quand aura lieu ce référendum-là. Puis j'ai envie de dire, c'est tellement dans longtemps rendu là, que est-ce que ça va vraiment percoler chez les électeurs, les menaces de peur de la part des autres partis? Je sais pas. Moi, je sais pas si les électeurs sont, je pense que les électeurs sont plus intelligents que ce type de manœuvre-là, auquel on est habitué, en passant.
Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, à ton humble avis, Georges Mercier, aurait été mieux de complètement reculer sur l'idée d'un référendum dans un premier mandat? À ce moment-là, ce serait pratiquement assuré de former un gouvernement majoritaire. On aurait pu gouverner le Québec pendant 4 ans, puis montrer aux Québécois qu'on est capable de former un bon gouvernement, puis ensuite de ça, repartir en élection et là le dire, il y a un référendum qui s'en vient. Est-ce qu'on aurait dû y aller de cette façon-là, selon toi?
Je pense qu'un autre leader du Parti québécois aurait pu faire ça, mais pour bien connaître plusieurs proches de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un homme qui sincèrement est profondément convaincu que la meilleure chose qui puisse arriver au Québec, ce serait l'indépendance. Et là, il y a aussi un paradoxe propre à la personne de PSPP. Parce que ce que les Québécois semblent apprécier chez lui, c'est oui, il incarne une forme de changement, oui, il a l'air compétent, mais c'est aussi un homme de conviction. Bon, majoritairement, les Québécois sont pas d'accord avec sa conviction principale, sa conviction phare, mais néanmoins, il n'aurait pas pu revenir en arrière parce qu'il aurait perdu justement cette aura d'homme intègre, convaincu, qui l'accompagne et qui lui profite. Donc, il marche sur une ligne qui est très, très fine, pas sur Plamondon. C'est vraiment un exercice d'équilibriste. Et là, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est une manière de garder l'équilibre, puis d'avoir le beurre et l'argent du beurre, de rester fidèle à ses convictions, tout en donnant une forme d'assurance, une forme de garantie aux Québécois qui n'apprécient pas ces convictions-là, bien qu'ils apprécient le fait qu'il est convaincu.
On a récemment eu des résultats de sondages qui nous ont comme montré là, le portrait à quelques semaines du déclenchement des élections. J'imagine qu'on aura d'autres sondages, que ce soit léger ou autre, là, dans une dizaine de jours pour le début des élections. Est-ce que tu t'attends à déjà, dans les prochains sondages, avoir du gros mouvement avec ce qui a été clarifié par Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin, avec ce qui s'est passé hier du côté de Terre-Neuve, Christine Fréchette qui était là, avec Mark Carney, avec le dirigeant du côté de Terre-Neuve aussi. Penses-tu que ça va bouger beaucoup ou que c'est vraiment à partir du début de la vraie campagne où là pourrait y avoir plus de mouvement?
Ça dépend si les électeurs sont au poste là, au début de cette vraie campagne-là. Ce qui va être intéressant aussi, Max, tu nommes ces deux éléments-là, il y a aussi le résultat des négociations commerciales qui risque d'avoir un impact en fonction de ce que Ottawa donne aux Américains par rapport au Québec. La seule chose qu'on sait par rapport à ça, c'est qu'il y a un sondage léger, la dernière semaine, qui a posé la question aux Québécois. Est-ce que vous voteriez davantage pour PSPP s'il abandonnait sa promesse de référendum dans un premier mandat? Et là, ça donnait des scores quasiment soviétiques d'appui. C'est pas ça qu'il a fait aujourd'hui. Mais néanmoins, ça va dans une direction similaire. Donc, ça pourrait avoir un impact chez les électeurs mous. Parce que ce que le dernier léger nous disait, c'était aussi qu'il y avait un électeur sur deux, à peu près, dont le choix n'était pas définitif. Est-ce que si vous êtes un Québécois nationaliste, fédéraliste, ce type d'annonce-là de la part de PSPP peut vous aider à aller au PQ, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'indépendance? Je pense que oui, parce que peu importe l'option, ça montre quand même un leader, PSPP, qui est à l'écoute de la population québécoise, qui prend le pouls de la population québécoise et qui est capable de faire preuve de flexibilité et de souplesse. Est-ce que dans la tête de certains électeurs, on pourrait se dire, bah, écoutez, il met un peu d'eau dans son vin ici, peut-être qu'au final, il pourrait mettre de l'eau dans son vin, même sur le référendum dans un premier mandat. Donc, je peux prendre le risque de voter pour lui. Ça me semble concevable.
Parlant de mettre de l'eau dans son vin, je reste chez un autre parti qui se dit souverainiste, Québec solidaire. Rubén Gazal qui a donné une bonne entrevue, là, puis quand je dis bonne, dans le sens, a dit beaucoup de choses au Journal de Québec. Puis ce qui en est ressorti notamment, c'est que QS allait abandonner l'idée d'une surtaxe pour les véhicules à essence, allait reporter son objectif de réduction de gaz à effet de serre. On dirait un genre de Québec solidaire qui met un peu d'eau dans son vin, un peu comme le proposait Gabriel Nadeau-Dubois avant de sacrer son camp. Un Québec solidaire qui peut-être a compris qu'il allait falloir se recentrer un petit peu si on veut survivre puis faire élire au moins un, deux, trois députés.
Ouais, en fait, Québec solidaire n'est pas original là-dedans, hein, Max. C'est à peu près toutes les gauches occidentales qui, dans les derniers mois, ont semblé finalement faire leur post-mortem, revenir des lubies puis des sommets de wokisme, disons, du début des années 2020, et comprendre que s'ils voulaient avoir une chance de rester sur les cartes électorales, de continuer à avoir des députations, mais il n'y aurait pas le choix de revenir plus près des électeurs. Puis revenir plus près des électeurs, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire abandonner les enjeux identitaires qui payaient pas. Je veux dire, c'est peut-être des enjeux importants, mais ça payait pas, ça effrayait une partie de l'électorat. Ça servait à rien. Okay? Donc, des trucs comme définancer la police, Gaza, les politiques qui sont sur la lutte pour l'équité raciale, des choses comme ça. Bon. Donc, on abandonne les politiques identitaires d'un côté, mais au même moment, on revient plus près des enjeux, plus proche des Québécois, des électeurs, comme le coût de la vie, le logement, la santé, des choses très, très terre à terre, où il y a quand même une prime à la gauche, parce qu'on pourrait accuser Québec solidaire de bien des choses, on ne pourra pas leur dire qu'ils ne se soucient pas du sort des plus démunis, et au même moment, essayer de comprendre que sur des enjeux comme l'écologie, ce qu'on appelait l'écologie punitive, donc tenter de contraindre les individus à avoir de meilleurs comportements, c'était pas la meilleure marche à suivre, qu'on peut envisager d'autres politiques qui sont moins contraignantes, mais qui pourraient aboutir aux mêmes objectifs, plus d'incitatifs, par exemple. Et si on arrive à faire ces deux choses-là, du côté de Québec solidaire, ben, on se replace de manière beaucoup plus séduisante sur la carte électorale, parce qu'il y a des gens de gauche au Québec, il y a des gens de gauche qui veulent de vraies politiques de gauche, mais qui voulaient rien savoir, disons, de l'abandon de la nation, en quelque sorte, d'abord les questions nationales. Donc, c'est positif, à mon sens, pour QS. C'est vraiment un signe de maturité de la part de Rubén Gazal. Ce qui est un peu triste dans tout ça, Max, c'est que ça me semble trop peu trop tard. Je ne sais pas si dans les quelques semaines qui nous séparent de l'élection, ils seront suffisamment bons au niveau des relations publiques, au niveau de la communication, pour convaincre les électeurs que vraiment, il y a eu un changement. Donc, ça aurait été bien que ça arrive il y a un an.
Parce que moi, je fais partie des gens qui est pour une grande pluralité à l'Assemblée nationale. Moi, je veux quelques députés du Parti conservateur du Québec. Je veux quelques députés de Québec solidaire. Bon, des députés de la CAQ, des fois, moi, je ne sais pas trop où ils se placent. Fait que ça me rend plus indifférent. Mais moi, je suis pour qu'on ait des députés qui sont plus à gauche et certains qui sont vraiment plus à droite puis qui amènent certaines idées dont les partis peuvent être représentés. Fait que moi, pour la démocratie puis pour les idées, ben, hey, je pense que je veux qu'il y ait 2, 3, 4 députés solidaires puis au moins ce même nombre-là de députés conservateurs. C'est sain pour la démocratie.
Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a même des preuves empiriques de ça, Max. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Patterns of Democracy ». Puis ce que l'ouvrage démontre, là, l'ouvrage académique démontre, c'est qu'en général, les systèmes proportionnels, pas comme le nôtre, là, mais qui assurent une meilleure représentation des différents partis au sein des parlements, font de meilleures politiques publiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques n'ont pas le choix de s'écouter les uns les autres. Puis c'est bien qu'on ait un parti plus à gauche à l'Assemblée nationale, parce que ça illustre des angles morts, parce que tous les partis ont des angles morts. Ça nous fait penser à des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé sinon. Donc, le pluralisme au Parlement, c'est une bonne chose, ne serait-ce que parce que personne n'a la science infuse. C'est pas vrai que le Parti québécois a 100% des solutions, ou le Parti conservateur, ou la CAQ, ou QS, ou que sais-je encore. On veut une diversité d'opinions pour forcer tout un chacun à prendre en considération des intérêts des segments de la population qui votent pas pour eux, mais qui néanmoins font partie de notre nation.
Georges Mercier, en terminant, on est à la veille de nouveaux tarifs américains face au Canada. Là, on a appris dans les dernières heures que Donald Trump et Mark Carney se seraient parlé au téléphone hier. Ton call, est-ce qu'on va les éviter, ces nouveaux tarifs-là, ou tu penses que ça va entrer en vigueur?
Veux-tu qu'on fasse un pari? Si j'avais à parier un gros 5 piastres, là, je pense qu'on risque d'avoir d'ici la fin de la journée un message sur Truth Social de Donald Trump qui dira « J'ai eu un très bon appel avec Mark Carney, les négociations progressent, je donne un autre délai au Canada ». C'est ce qui me semble le plus probable, personnellement. Je serais surpris qu'on ait un vrai accord d'ici la fin de la journée, toutefois, parce que ce qu'on apprend, c'est que la distance est encore très grande entre les deux parties. Mais néanmoins, je serais tout aussi surpris que ces droits de douane-là entrent bel et bien en vigueur. Si ça devait être le cas, Là, ça veut dire que les Américains sont vraiment intransigeants sur les demandes phares qu'ils font, à savoir garder leurs droits de douane sur l'acier, l'aluminium, l'automobile, le bois d'œuvre. Et ça, c'est peut-être parce que les Américains, ça, on l'oublie un peu, sont dans une vraie démarche de réindustrialisation puis de ramener les industries chez eux. Dans ce contexte-là, s'ils croient que la meilleure manière de le faire, c'est vraiment de limiter l'accès à leur marché, mais ça risque de rester comme ça. Et peut-être que le Canada, si on ne veut pas mettre de l'eau dans notre vin là-dessus, on ne parviendra pas à un accord satisfaisant pour nous.
Georges, merci, analyste politique. Toujours le fun. On se reparle demain, 10h40.
À demain, Max.
Salut. Au retour, c'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Et aujourd'hui, on jase avec un allergologue. On va discuter d'une nouvelle façon de possiblement clairer les allergies alimentaires. C'est le grand sujet, j'ai envie de dire. Mais curieux de savoir, 88-971-1021, avez-vous trouvé que c'était pire, les allergies cette année, que par le passé? On dirait que personnellement, oui. Mais en même temps, ça dépend des matins. Depuis des semaines, on dirait que je suis correct. Puis là, à matin, pour une raison que j'ignore, on dirait que les allergies m'ont fessé durant ma marche vers le travail. 418-971-1021. Comment ça va, vous autres, les allergies? On revient avec l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max.
OK, oui, 11h03, bienvenue ou re-bienvenue dans le Point de Max à Boulevard 102.1. 23 degrés à Québec, 26 au ressenti maintenant. Au thermomètre, le maximum aujourd'hui, ce sera de 25. Ce soir et cette nuit, 14 degrés avec quelques nuages. Demain, mercredi, 24 degrés, 60% de possibilité d'averse. Mais si c'est le prix à payer, ces petites averses demain, pour les trois belles journées qui s'en viennent ensuite, ben c'est un prix à payer que je suis bien prêt à débourser. Jeudi, 24 degrés, gros soleil, notamment pour le match Boulevard au Capital de Québec jeudi soir. Vendredi, 23 degrés, gros soleil. Samedi, 24 degrés, gros soleil. Fait que c'est trois belles journées que du soleil de jeudi à samedi avec des 23-24 degrés. Après ça, ben dimanche, ce serait le retour de la pluie. Mais on verra rendu là, ou comme j'aime bien dire, puis Audrey aime bien me voler d'ailleurs cette expression, quand on parle de météo, on traversera le pont quand on sera rendu à la...
rivière.
Voilà. À la circulation, on a quelques problèmes. Un en particulier là, que je dois vous signaler. Henri IV Nord, hauteur boulevard Hochelaga, la voie de droite qui est bloquée en raison d'un accident. Donc, ça cause quand même des problèmes. En fait, c'est pas compliqué. Ça va refouler vraiment sur le pont Pierre-Laporte au grand complet. Donc, la porte direction nord, c'est pas facile. Et sinon, ben, le classique hein, des derniers mois, la 20 direction ouest entre route du président Kennedy et Taniata. C'est au rouge. Audrey Pinchot, salut!
Bon matin!
Bon retour!
Merci!
Puis, ça a-tu bien été le déménagement?
Oui, très bien été. C'était militaire. C'était.
J'en doute pas.
Mais honnêtement, ma belle famille m'a fait rire parce que, tu sais, des fois, t'as pas l'impression que tu dégages certaines choses. Puis, je pense que j'ai fait peur à du monde. Moi, j'avais un plan, là. Je veux dire, il y avait un plan, puis c'était. C'était clair, puis les temps étaient calculés. Je veux dire, j'avais fait une solide job de préparation.
Puis les soldats avaient intérêt à suivre le plan.
Ben là, c'est sûr que je veux dire, oui, dans ma tête, dans mon idéal. Mais je veux dire, écoute, j'ai été super choyée. On avait ma famille, la famille de mon chum. Tout le monde était extraordinaire, ce qui a fait en sorte qu'en 4 jours, là, on a pas mal installé une maison au complet.
Ah ouais.
Je peux pas dire qu'il reste grand-chose à placer, là. Je veux dire...
Je fais comme si j'étais surpris. Je suis pas surpris pantoute, là.
Ben, écoute, on se levait tôt pour se coucher vraiment tard.
J'en doute pas.
Fait que ça a super bien été, puis c'était le fun ce matin de se lever dans un chez-soi, je te dirais. Fait que très bonne humeur, très content d'être là.
Bon, ben super. On t'écoute dès 14h, probablement raconter ça avec tous les détails là, dans le retour, où vous retrouvez l'équipe original à mon plus grand bonheur. Ah, c'est pas vrai, j'allais dire, parce que je suis à week-end pareil. Je fais quand même des doubles toute la semaine. Bon, ben,
grosse semaine.
Mais les auditeurs vont être contents de vous retrouver. Fait que c'est ça, c'est l'heure de l'open mic.
Yes.
Puis là, je suis content parce que là, je jasais avec notre invité hors d'onde, puis je suis pas fou. Ben, peut-être pour bien d'autres raisons, là. Mais à matin, je sentais quelque chose et on m'a confirmé que. Je suis pas fou.
Tu sentais quelque chose?
Je sentais quelque chose en m'en venant dans ma petite
bon,
marche.
Bon, ben, ça part.
À Boulevard, il y a un moment.
Tous les matins, je prends ma petite marche vers la station.
Ouais.
Puis au début de l'été, là, j'étais très allergique.
Oui.
Je sais pas à quoi, là, mais ça, y a des matins où ça allait pas
pantoute.
Ça allait pas pantoute. Puis là, depuis quelques semaines, ça allait. Puis j'étais plus vraiment... Mes petites marches fonctionnaient super bien. Il n'y avait pas de problème. Puis là, sorti d'un peu nulle part ce matin. Hey, ça allait pas, ça allait plus. On dirait que je me suis retrouvé au début de l'été quand j'étais allergique, que j'avais le nez pogné, que je reniflais, que...
Yeux te piquent, les oreilles te piquent. On dirait que c'est envahissant.
Donc, j'en ai parlé à notre allergologue, qui est notre invité aujourd'hui dans l'open mic.
Oui. Écoute, je vais vous le présenter. Jean-Nicolas Boursiquet, qui est allergologue, effectivement. Donc, docteur Jean-Nicolas. On lui parle aujourd'hui de base, parce qu'il y a un article du Devoir qui est sorti la semaine passée sur un nouveau traitement prometteur pour les allergies alimentaires, une transplantation de microbiote fécal. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, mais définitivement, on veut savoir ce que ça mange en hiver. Puis on aura l'occasion d'aborder les questions plus concernant les allergies. Fait que ce qu'il y a à l'extérieur, les animaux, évidemment, les allergies alimentaires, les intolérances aussi, je rentre ça là-dedans. La différence entre les deux, tu peux-tu aggraver une intolérance? Moi, je suis une grande allergique. Hein. J'ai des allergies poisson fruits de mer, j'ai des réactions aux animaux à dehors, je m'en sors pas, et j'ai une intolérance au lactose pour mettre une petite cerise sur le sundae. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir démystifier tout ça parce que je regarde dans mon entourage et de plus en plus de gens ont l'air d'avoir des allergies, puis ça a l'air de commencer vraiment tôt dans une vie. Donc, Jean-Nicolas qui est avec nous ce matin, merci de prendre le temps de venir t'installer puis de nous démêler dans tout ça.
Ben merci infiniment de me recevoir en studio. Puis Maxime, écoutez, mes sympathies, c'est sûr que les allergies, c'est très difficile, mais les allergies saisonnières, c'est comme les impôts. On sait, ça revient à chaque année.
On n'a pas le choix, c'est ça.
mais tu sais, le pire, personnellement, je suis super chanceux. T'sais, j'ai pas d'allergie alimentaire. C'est juste un petit gossage de nez. Puis ce que tu me disais avant qu'on entre en onde, c'est que oui, ça peut arriver que tout aille bien pendant des semaines, puis que là, à un moment donné, avec un genre de mélange météo qui ramène du pollen, puis ben ça se peut que ça recommence comme ça un matin comme ce matin.
Oui, tout à fait. Donc, si on parle des allergies un petit peu saisonnières, ben c'est dû au pollen dans les airs. Il faut savoir qu'au Québec, on a trois grandes saisons pour les pollens. Ça commence au printemps, à la fonte des neiges, lorsqu'il y a des bourgeons dans les arbres. C'est le pollen du bouleau et les autres arbres qui vont nous incommoder. À partir du mois de juin, c'est plus les graminées, donc le foin, le gazon. Ce que nos grands-parents appelaient le fameux rhume des foins. Donc, c'est un autre type de pollen. Et à partir du mois d'août, ben c'est l'herbe à poux. Pas l'herbe à puce, hein, c'est pas la même chose. On parle de l'herbe à poux. Donc, mon cher Maxime, c'est ce qui vous incommode ces jours-ci.
Non.
Puis malheureusement, vous allez être pogné avec ça jusqu'à la première gelée par terre. Donc, ça peut aller jusqu'au mois d'octobre, voire même début du mois de novembre, avant qu'il ne reste plus une graine de pollen dans les airs.
Ah. OK. Est-ce que ça peut apparaître avec le temps?
Ah oui, certainement. On ne naît pas avec une allergie, on va la développer avec le temps. Donc, on sait que les allergies au pollen vont se développer à partir de l'âge de 7, 8, 9 ans. Donc, il faut avoir été exposé au pollen quand même quelques fois dans sa vie. Généralement, il va y avoir un pic chez les jeunes adultes, mais ça peut très bien débuter à l'âge de 40, 50 ans. Donc, c'est très imprévisible.
Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est comme apparu de nulle part, que là, tout d'un coup, j'achoume, je suis pas bien, je me frotte le nez. Puis, j'ai entendu dire que, dépendamment de tes allergies, il y a des antihistaminiques que tu peux prendre qui vont peut-être aider davantage. Tu sais, là, il y a les claritins, les réactines, il y en a toutes sortes, là. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, tout à fait. Il faut faire excessivement attention à ce qu'on retrouve en vente libre à la pharmacie. Donc, on connaît tous des médicaments comme le Benadryl, diphénhydramine, ce sont des médicaments qu'on dit de première génération. Donc, c'est les premiers types d'antihistaminiques qui ont été développés et offerts sur le marché. On les recommande pas en tant que médecin allergologue parce que ça cause de la somnolence et aussi c'est pas très efficace, ça dure pas longtemps. Alors vraiment, ces antihistaminiques ou comme l'Atarax, le chlortripolone, on fait une croix sur ça. On va plutôt favoriser les antihistaminiques, on dit, de deuxième génération. Vous avez parlé du claritin, il y a également l'aérius, la réactine qu'on peut trouver. Alors, c'est moins associé à la somnolence et ça dure généralement pendant 24 heures. Donc, on a un meilleur contrôle des symptômes et il y a même certains antihistaminiques qui ne sont pas disponibles en vente libre, qu'on peut avoir sur prescription, comme le Rupal ou le Blexten, qui semblent même avoir un effet ajouté par rapport aux antihistaminiques qu'on trouve en vente libre.
Est-ce qu'on peut s'habituer à un antihistaminique? J'ai l'impression l'impression, je suis peut-être débile aussi, là, docteur Boursicot, mais j'ai l'impression que moi, Réactine, mettons, ça fait plus. J'en ai trop consommé, je sais pas, mais on dirait que ça marche plus. Est-ce que dans ce temps-là, il faut juste changer de marque et de sorte tu la molécule? Qu'est-ce qui se passe?
Très bonne question, Audrey. C'est une question qu'on nous pose souvent là, en clinique. Donc, il n'y a pas une accoutumance où on ne s'habitue pas à un type d'antihistaminique. Si on voit qu'à la même dose d'antihistaminique, les symptômes ne sont pas bien contrôlés, c'est que nos allergies sont trop sévères. Donc, on doit aller vers d'autres options de traitement, que ce soit les sprays de cortisone pour le nez ou la désensibilisation. Maintenant, de changer d'antihistaminique, antihistaminique, ça ne fait pas une grande différence au point de vue, disons, physiopathologique parce qu'on va venir bloquer les mêmes récepteurs. Je vais quand même suggérer à certains patients de changer leur antihistaminique pour voir est-ce qu'il y a moins d'effets secondaires. Donc, un patient qui me dit, par exemple, la réactine, c'est marqué sans somnolence, mais je m'endors. Mais c'est quand même efficace. Qu'est-ce que je fais? Bien là, je vais peut-être recommander de changer pour un autre antihistaminique pour voir si on a moins d'effets secondaires.
Est-ce que les allergies, mettons, au pollen, même si c'est différents types de pollen, est-ce que quelqu'un qui est allergique, mettons, à un type de pollen, nécessairement a des bonnes chances d'être allergique à pas mal tout le pollen, d'être pogné avec ça pas mal tout l'été, printemps, automne?
C'est très variable d'un individu à l'autre. Alors, les gens qui font des allergies, on les appelle les atopiques. L'atopie, c'est une propension à développer des allergies. Maintenant, quelle allergie est-ce qu'on va développer? C'est très variable d'un individu à l'autre. Vous l'avez dit, il y a des gens là, qui sont incommodés de la fonte des neiges jusqu'à la première gelée. Donc ça, c'est des gens qui sont heureux seulement l'hiver. C'est un petit peu dramatique. Mais il y a aussi des gens qui sont plus incommodés au printemps, puis rendus à l'été, ça va mieux, puis à l'automne aussi. Il y a des gens qui sont allergiques à leurs animaux de compagnie, aux acariens, donc la poussière. Donc, c'est des gens qui vont être incommodés quatre saisons. Donc, c'est très variable d'un individu à l'autre, et même pour un seul individu, ça peut être variable au courant de sa vie. La personne pourrait avoir du rhume des foins, donc avoir des allergies saisonnières, nez bouché, éternuement, les yeux qui grattent seulement juin, juillet, puis plus tard dans la vie, on dirait que l'automne se rajoute. Donc, c'est très dynamique. Hein? C'est pas gelé dans le béton. Là.
Puis on peut jamais les perdre, mettons. T'sais? Parce que là, je vois que ça s'accumule, mais ça se peut-tu, mettons, que les foins nous quittent à un moment donné?
Bien, c'est sûr que si on déménage dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de graminées, bien, si on n'est pas exposé à un pollen auquel on réagit, bien, on n'aura pas de réaction. Mais c'est quand même difficile de recommander à nos patients de s'engapaner durant l'été, de ne pas être exposé au pollen. Donc, on sait que le traitement des sensibilisations ne va pas nécessairement venir faire en sorte que nos patients vont guérir, mais ils vont être améliorés sur une longue période de temps. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, on dirait qu'il y a certaines allergies qui vont diminuer, quitte même à disparaître. Mais ça, les mécanismes ne sont pas encore très bien élucidés. On ne sait pas pourquoi qu'on peut être très, très incommodé quand on est un jeune adulte par certains pollens, puis rendu à 60, 70 ans, ben non, on ne s'en fait plus.
C'est un coup, c'est plus si grave que ça. Prévenir, je veux qu'on en parle parce que j'ai entendu dire, puis il y a beaucoup de ça, hein, quand on parle de médecine, en général, là, que si tu exposes tes enfants, par exemple, ou même dans le ventre de la maman, à toutes sortes d'aliments, une variété de plein d'affaires, tu vas éviter peut-être certaines allergies. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, en partie, et maintenant c'est appuyé par la science. Et ça vient vraiment déboulonner ce qu'on conseillait aux parents, il y a à peu près une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ont probablement connu le guide de mieux vivre, où est-ce qu'on enseignait aux jeunes parents comment bien s'occuper de leurs enfants. À une certaine époque, on disait, ben si tu penses que ton enfant est à haut risque de développer des allergies, parce que tu as un autre enfant qui a des allergies alimentaires, ou parce que toi-même, tu souffres d'allergies, ben pour mettre les chances du côté de ton enfant, peut-être qu'on va retarder l'introduction de certains aliments, comme les noix et les arachides, en disant que peut-être que plus longtemps qu'on attend, ben moins l'allergie va arriver. Et maintenant, on sait que c'est probablement faux ce qu'on disait à nos patients. Il y a une étude parue en 2015 où est-ce qu'on a pris des très, très jeunes enfants et on a fait complètement le contraire. Au lieu de dire on attend avant d'introduire des arachides, on a dit aux parents d'introduire les arachides sous forme de friandises aux enfants en bas de l'âge de 1 an. Et il y avait un autre groupe où est-ce qu'on a dit tu vas introduire les arachides, mais probablement après l'âge de 1 an et on va revoir les enfants lorsqu'ils vont avoir 4-5 ans. On avait deux groupes. Et on s'est aperçu que dans le groupe où est-ce qu'on faisait l'introduction hâtive de l'arachide, donc avant l'âge de 1 an, on diminuait de 85,1% le risque de développer des allergies à cet aliment par rapport aux enfants chez qui ça avait été introduit un petit peu plus tard. Donc ça, c'est super important. On dirait que la tolérance immunitaire se joue dans les premiers mois de vie. Maintenant, est-ce qu'on peut extrapoler ça à tous les aliments en général? Peut-être pas, mais il y a d'autres études qui vont peut-être nous apporter un éclairage à ce propos.
Mettons-le, moi, je suis intolérante au lactose. Il y a des produits qui me font pas mal plus réagir que d'autres. Je suis enceinte. J'ai la drôle de pensée magique pour éviter à mon bébé d'avoir des intolérances ou des problèmes avec le lactose, de m'en imposer de temps en temps en me disant ben, peut-être que s'il en consomme, parce que j'en consomme, ça va justement diminuer les chances que lui ait des problèmes avec ça. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou pas à tout?
On dit c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui se dit « Audrey, c'est complètement débile. » Puis après ça, je réfléchis.
Ben,
je suis comme,
c'est débile pour moi.
Mais, ça, oui,
mais pour mon bébé, autres, si c'est bon, mais, je me dis hey, « Regarde, un mal de ventre dans la journée, au pire.
Ouais. »
Ça, c'est bien les mamans, ça. Hein, prêts à tout faire pour leurs enfants, même se faire du mal.
Ben oui.
Non, il ne faut pas nécessairement combattre le feu par le feu. Puis Audrey, c'est super intéressant parce que ça fait intervenir un autre concept qui est différent de l'allergie, donc l'intolérance. Je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes pour différencier les deux concepts parce que c'est pas du tout la même chose. Alors, l'intolérance alimentaire, c'est complètement différent de l'allergie. Une intolérance, c'est pour une raison qu'on ignore, notre corps n'arrive pas à digérer certains aliments. Alors, le système digestif dit, si je ne peux pas retirer des nutriments de cet aliment, je vais le faire sortir par le chemin le plus court, par en haut, par en bas ou les deux. Donc, l'intolérance...
Ça, t'es chanceux dans ce temps-là.
Et on espère qu'on soit à la maison, tranquille, seul, proche d'une toilette. Donc, l'intolérance, c'est plus des symptômes digestifs et c'est dépendant de la dose. Probablement que si vous mettez un petit peu de lait dans votre café, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous tapez un litre de lait, ben, c'est sûr que ça va brasser un peu dans le gorgoton, là, pour quelqu'un qui est intolérant au lactose. Donc, l'intolérance, ce n'est pas une allergie. Lorsqu'on parle d'une allergie, c'est une réaction qui est beaucoup plus grave, dangereuse, potentiellement mortelle. Donc, l'allergie, ça fait intervenir le système immunitaire et on n'aura pas seulement des symptômes digestifs. On peut avoir des symptômes cutanés. Donc, sur la peau, on peut avoir de l'urticaire, de la démangeaison, des plaques qui grattent, l'enflure au niveau des lèvres, la langue et ça peut toucher également les voies respiratoires. Dans un contexte d'intolérance, on n'a pas besoin d'auto-injecteur d'adrénaline. C'est pas grave ou dangereux pour la vie. On peut en consommer des petites quantités sans qu'il y ait nécessairement des symptômes.
Mais est-ce que c'est bon dans le sens où est-ce qu'on peut intensifier une intolérance si on en mange? Tu sais, moi, mettons, je suis intolérante au lactose, là, mais j'adore les produits laitiers. Fait que si je vais chez quelqu'un, j'imposerai pas mon intolérance, j'ai déjà assez d'allergies. Fait que si on mange une fondue au fromage, ben, m'a me serrer deux fesses, tu comprends, m'a passé à travers ma soirée, puis je vais consommer.
Tu vas t'imposer à la salle de bain après. Mais ça, c'est autre chose.
C'est un autre dossier. Mais je me dis, est-ce que je peux intensifier mon intolérance ou je m'aide dans ce temps-là? Parce que là, maintenant, avec les allergies, on voit la désensibilisation. Fait que ça va de quel bord avec l'intolérance?
Alors, on ne peut pas se désensibiliser à l'intolérance. D'un autre côté, ça ne va pas faire un phénomène crescendo en disant que chaque fois que je vais consommer l'aliment qui me donne une certaine intolérance, ça va être pire de fois en fois.
Ça change comme
l'intolérance,
rien.
Exactement, c'est comme des montagnes russes. Puis les gens aussi s'aperçoivent que dans un contexte où est-ce qu'ils couvrent une infection, qu'ils sont fatigués ou plus stressés, on dirait qu'ils sont justement plus intolérants. Ça prend une moins grande quantité de l'aliment pour déclencher de gros symptômes.
Est-ce que c'est génétique? Parce que ça, on dirait que c'est un débat qui change aux 5 ans. J'ai entendu oui, j'ai entendu non. Mais en même temps, moi, dans ma famille, ma mère est allergique mortellement aux poissons fruits de mer. Je reprends cet exemple-là. Mon frère a eu ces allergies-là et sont disparues. J'ai encore ces allergies-là. Fait que j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, c'est un peu génétique. Est-ce que ça l'est ou non?
Oui, en partie. Alors, si on revient du point de vue des allergies, c'est sûr que si, par exemple, on a deux parents qui ne souffrent d'aucune allergie, on parle des allergies en général, donc que ce soit allergies respiratoires comme l'asthme, le rhume des foins, des allergies alimentaires, l'eczéma, si aucun des deux parents a de l'allergie, le risque que leur enfant développe des allergies un jour, c'est à peu près 10 %. Par contre, si un des deux parents souffre d'allergie, le risque de l'enfant, c'est 30 à 40 %. Et si les deux parents souffrent d'allergie, on augmente ça à 70 %. Alors, clairement, il y a quelque chose de génétique en dessous de ça. Il y a une prédisposition génétique qui fait en sorte que les enfants vont développer des allergies, mais pas nécessairement la même que les parents. Hein? Un père pourrait avoir des allergies aux poissons fruits de mer, mais l'enfant va avoir du rhume des foins. Donc, on parle d'une prédisposition vraiment plus large et non pas spécifique à un type d'allergie ou à un aliment en particulier.
C'est intéressant, ça, parce que moi, dans ma tête, je retournais à la logique de l'exposition. Je me disais, ben c'est peut-être parce que ma mère est allergique, m'a jamais exposée aux poissons et fruits de mer, et donc j'ai développé ça, mais c'est
non,
plus large.
Non, vous ne pouvez pas en vouloir à votre mère.
Caroline.
Du moins pour ça.
Mais c'est ça. Ça n'a pas l'air appétissant de toute manière, mais en même temps, j'en ai jamais mangé. Je peux pas parler là. Est-ce que on a, ben, j'allais dire, est-ce qu'on a un contrôle? J'imagine que oui, parce que de plus en plus, il y a certaines allergies qu'on peut justement désensibiliser en jeune âge. Moi, l'animateur avec qui je travaille en après-midi, Denis, ses kids ont eu des problèmes avec les œufs puis les arachides. Mm-hmm. Puis il a été capable de faire un genre de programme de désensibilisation pour les aider. Ils étaient les deux en bas de 10 ans à ce moment-là. Mm-hmm. Mais il y a des allergies, de ce que je comprends, avec lesquelles on peut pas faire de désensibilisation.
Bien, il y a trois grands types de désensibilisation qu'on peut maintenant offrir à nos patients. Il y a la désensibilisation aux allergènes respiratoires, que ce soit les animaux, poussière acarien et les pollens. Le deuxième type de désensibilisation qu'on offre à nos patients, c'est les gens qui sont allergiques aux venins de guêpes et aux abeilles. Donc ça peut se désensibiliser par injection. Et finalement, depuis quelques années, on offre au Québec et à Québec la désensibilisation alimentaire. Mmh. Donc, on peut l'offrir, ça marche bien chez les jeunes patients. On peut même avoir un espoir de guérison chez les patients en bas de l'âge de 4 ans. En bas de l'âge de 10 ans, c'est encore faisable, mais chez les jeunes adolescents, les ados puis les adultes, ça marche un petit peu moins bien. Quand on parle de désensibilisation, imaginez, on ouvre là un dictionnaire puis on dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire la désensibilisation? Alors, la définition, c'est induire un état de tolérance par rapport à un allergène donné. Alors, c'est des beaux mots, mais est-ce que j'ai utilisé le mot guérison? Non, absolument pas. Donc, la désensibilisation, les gens ont parfois cette pensée magique que parce que je vais être désensibilisé, je vais être guéri. Si on me désensibilise contre mon allergie aux arachides, c'est sûr que je vais être guéri. Malheureusement, ça n'arrivera pas dans tous les cas. Il faut donc avoir des attentes réalistes lorsqu'on veut entamer un processus qui peut s'échelonner sur plusieurs années.
Ça se peut qu'en bout de ligne, tu sais, tu vas jamais manger des peanuts comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais que si à un moment donné, t'en touches, ça te tue pas. Ben, c'est ça que tu auras gagné.
Exactement. Juste pour se donner un ordre d'idée, parce que ça va faire écho à l'article là, qui est paru au début du mois d'août, on prend l'exemple des arachides. Bon, les arachides, c'est à peu près 250 mg de protéines. Alors moi, sous supervision médicale, je vais commencer à des petites doses, 1 à 5 mg de protéines. Donc, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin d'arachide que je donne à mes patients. Et je vais leur demander de prendre cette même quantité tous les jours. Et de mois en mois, je vais les revoir pour doubler les doses, jusqu'à temps qu'on arrive à ce qu'on appelle une dose d'entretien. Une dose qu'on sait, par les études médicales, cette dose vient agir sur le système immunitaire. Et cette dose, c'est, dans le cas des arachides, 500 mg, donc deux peanuts. Alors, on est quand même loin de la toast au beurre de peanuts que je vais manger goulûment le matin. Ceci dit, puisque j'augmente mon seuil de réaction, ça me prend une plus grande quantité avant de développer une réaction allergique, bien, ça augmente ma marge de sécurité.
Mais oui,
ça fait en
chance.
Sorte que si j'ai une exposition accidentelle, j'aurai peut-être pas de réaction.
Ah, j'aime ça. Je trouve ça super intéressant. Faut qu'on parle de cet article du Devoir avant qu'on se laisse. L'idée part qu'il y a un nouveau traitement prometteur pour les allergies alimentaires et on parle d'une transplantation de microbiote fécal. On dirait que ça m'attire pas pantoute, docteur Boursicot. Je sais pas si vous pouvez nous expliquer.
Oui, et je vois aussi l'heure du dîner approcher. Là, ça va peut-être couper l'appétit à certains, mais pour la science, ne reculons devant
c'est
rien.
Ça, on n'a pas
avançons.
Le choix.
Alors, c'est une étude super intéressante que moi-même, je n'avais pas lue. C'est un de mes patients qui m'a dit « Hey, docteur Boursicot, avez-vous vu? Ça a été publié au début du mois d'août. Ça a l'air d'être super intéressant. Une transplantation fécale de microbiote. » Alors, je vais expliquer un peu aux gens à la maison et au bureau qu'est-ce que ça mange en hiver, là, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, c'est une étude où est-ce qu'on a vérifié comment certaines bactéries de l'intestin pourraient aider le système immunitaire à devenir un petit peu plus tolérant aux arachides. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris aux États-Unis 15 patients adultes qui avaient des allergies aux arachides. C'est des patients qui toléraient en moyenne l'équivalent de 100 mg d'arachides, ce qui veut dire un peu moins qu'une demi-pinote. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un microbiote à ses patients sous forme de capsules, microbiote qui a été récolté dans les selles de donneurs sélectionnés. Donc, des gens qui n'avaient pas d'allergie alimentaire, on a pris leurs selles et on a été chercher le microbiote. Alors, le microbiote, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries complètement saines qui nous aident là, à mieux digérer, à mieux vivre en équilibre avec les moins bonnes bactéries.
Et c'est pas littéralement des pilules de caca, là.
Non, non.
Ça pouvait difficilement être comme, plus clair.
Oui. On a enlevé l'excédent. Fait que c'est sûr que les grains de maïs le tournedos de poulet mangé la veille n'étaient pas dans ces capsules.
Je voulais qu'on se comprenne. Parfait.
Et ça me fait penser, pour les gens qui trouvent ce mécanisme très prometteur, s'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison. Hein? C'est encadré par la science.
Non, mais on fait bien, hein? On ne sait jamais.
Alors, ces personnes-là, on leur faisait ingurgiter des capsules qui contenaient de ces bactéries. Et on a attendu quelques mois et on les a challengées de nouveau à des doses croissantes d'arachides. On a essayé de voir, est-ce que ces patients-là arrivaient à consommer une plus grande quantité d'arachides? Alors, la réponse, c'est oui, en partie. Il y a 6 patients sur 15, donc environ 40 % des patients qui étaient capables de tolérer une plus grande dose d'arachide. Alors qu'en moyenne, les gens partaient aux alentours de 100 mg d'arachide, donc à peu près une demi-pinote, il y a un des patients qui était capable d'atteindre 300 mg, un peu plus qu'une arachide, et il y a 5 autres patients qui étaient capables de tolérer 600 mg d'arachide, donc 2,5 arachides en moyenne. C'est donc beaucoup plus, c'est prometteur, mais un, c'était pas efficace chez tout le monde, et deux, on est encore loin de la toast au beurre de peanut le matin.
Mais ça peut-être nous mener encore une fois à une gestion potentielle d'accident si grand-maman a fait un gâteau avec de l'huile d'arachide, mettons, tu sais.
Oui, on est encore loin quand même de la commercialisation d'un tel produit parce qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi c'est seulement 40 % des gens qui répondent et non pas l'entièreté? Est-ce que c'est quelque chose qui va être durable dans le temps? C'est quoi dans toutes ces bactéries qu'on retrouve dans le microbiote, celle qui est la plus utile? Est-ce que ça va marcher pour non seulement les arachides, mais pour tous les aliments? Donc, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant comme approche. C'est novateur, mais il y a encore beaucoup d'autres à couler sur les ponts, avant de traverser le pont puis se rendre à la rivière pour avoir quelque chose qui va être disponible en tablette et qu'on va pouvoir offrir à nos patients.
Tu vis, Max, ton expression commence à se promener partout.
Ben oui,
une chance que tu l'as inventé.
Hey, hein? J'ai jamais dit que je l'avais inventé. Là, tu prends mes propos, tu les déformes.
Docteur Jean-Nicolas Boursicot, d'après moi, on n'aura pas le choix de surjaser parce que j'ai encore plein d'affaires sur ma feuille. Je pense à l'acupuncture qui, pour certains, est une façon de se débarrasser de certaines allergies. Il y a des mythes et réalités, qu'on peut aborder ensemble aussi. Fait qu'on se reprendra rendez-vous dans les prochaines semaines.
Ça sera avec grand plaisir. Merci de votre invitation.
Merci
à vous.
Audrey Pinchot, on t'écoute raconter tes aventures de déménagement dès 14h dans le retour.
Yes!
Et nous, on se retrouve au retour de la pause, petit tour des nouvelles. On jase de la sortie importante de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois ce matin. Et on se parle de Katy Perry et Justin Trudeau qui bénéficient d'une grosse protection de la GRC. Le Point Max. 11h34 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. 418-971-1021, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Je le dis parce que je sais qu'il y a bien des nouveaux, plusieurs nouveaux auditeurs qui nous écoutaient ce matin, entre autres pour nos annonces. Certains en se doutant de ce qui allait être annoncé. Puis qui sont bien contents. Fait que, notamment, là, un petit peu plus tôt dans le show, un texto qui est entré pour dire « Hey, moi, on dirait que j'étais comme devenu orphelin politique. » Puis là, avec les belles annonces de ce matin, pas politique pantoute, orphelin de radio, excusez, parce que le terme orphelin politique revient souvent, notamment du côté de l'ami Denis Gravel dans le retour. C'est ça, texto qui disait « Hey, moi, j'étais tombé orphelin de radio. » Je serais pas resté orphelin longtemps. Fait que bienvenue à cette personne-là, entre autres, à Boulevard 102. D'ailleurs, en fin de show, là, je referai un petit tour de ce qui a été annoncé ce matin pour ceux qui l'ont peut-être pas pogné. Sinon, là, tout est sur nos réseaux sociaux. C'est ça, fait que 88 971 102 numéro pour nous rejoindre par texto. 23 degrés, c'est ce qu'on a actuellement à Québec, maximum de 25 aujourd'hui. Mais déjà avec l'humidex, c'est 26 ressentis. Demain, mercredi, 24 degrés, 60 % de possibilité d'averse. Puis après ça, trois belles journées. 24, 23 et 24, gros soleil pour jeudi, vendredi, samedi, avant peut-être un retour de la pluie dimanche. Mais en attendant, de jeudi à samedi, trois super belles journées. À la circulation, compliquée là, pour la 20 direction ouest au rouge, je vous dirais, entre route du président Kennedy et Taniata. Encore un petit peu de ralentissement aussi sur le pont Pierre-Laporte en direction sud, mais ça se limite pas mal à ça pour l'instant. On va aller faire un petit tour d'actualité. Bien sûr, beaucoup de politique aujourd'hui, mais je commence dans la catégorie des faits divers parce que le SPVQ a procédé vers 2h30 cette nuit à l'arrestation de 4 personnes pour une tentative d'introduction par effraction dans un logement. Les policiers qui ont été appelés à intervenir sur la rue des Lilas-Est et c'est donc dans le secteur de Limoilou. Il y a un premier suspect qu'on a réussi à retrouver alors qu'il était à pied sur la rue de la Colombière-Ouest, un kid de 18 ans qui a été arrêté pour introduction par effraction. Puis un peu plus tard, on a localisé un véhicule suspect dans le quartier Saint-Sauveur. Et là, ben, on a procédé aux 3 autres arrestations. Des kids de 14 et 17 ans et un monsieur de 44 ans. Il y a une arme à feu chargée qui a été saisie dans le véhicule. Les 3 occupants qui ont été arrêtés pour introduction par effraction et port d'une arme dans un dessin dangereux. Les 4 suspects qui sont actuellement détenus et seront rencontrés par les enquêteurs. Maintenant, pour ce qui est de la grande annonce politique du jour, je vais le dire comme ça, quoi qu'il y en a qui disent que c'est pas vraiment une annonce, qu'il n'y a rien de nouveau, puis j'ai le goût de dire à ces gens-là, « Hey, vous avez raison, parce que c'est vrai que le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, l'avait déjà à peu près dit qu'un référendum se ferait pas tant que Donald Trump serait président des États-Unis. Là, ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on vient vraiment le clarifier, le mettre noir sur blanc. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a donc annoncé 2 choses. Puis je dis annoncer, c'est le vrai mot, là, c'est clarifier. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon a clarifié que le possible gouvernement du Parti québécois allait consulter les Québécois sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat s'il est élu. Ça change pas. Il y en a qui pensaient hier, et ça sent le recul du PQ sur un référendum dans un premier mandat. Au contraire, avant de parler même de la deuxième chose qu'il voulait clarifier, Paul Saint-Pierre Plamondon commence avec ça. Il y aura un référendum dans un premier mandat. La deuxième chose maintenant que PSPP voulait clarifier, bien, ça concernait le moment précis de la consultation, du référendum. Il dit qu'au cours des derniers mois, bien, il s'est déjà exprimé sur le fait que le Parti québécois allait exercer son jugement pour choisir le moment de la consultation, ce qui pour lui allait de soi, mais il ne s'était pas encore exprimé formellement sur le point suivant. Un gouvernement du Parti québécois ne tiendra pas de référendum tant que Donald Trump sera président des États-Unis. Paul Saint-Pierre Plamondon sera avec Jeff ce midi à 13h30 bien exactement, où il pourra là, répondre aux questions de Mathias et Jeff sur les raisons de cette sortie-là. Venir clarifier encore plus tout ça, encore plus, parce que là, je vous donne les grandes lignes, là, mais c'est quand même, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter aussi et compagnie. Là. C'est un bon texte là, qui a été publié par Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai lu des propos du chroniqueur Antoine Robitaille de Québécois. Puis, il amène un point que certains autres ont amené aussi dans les dernières heures, mais parle du fait que c'est très habile de Paul Saint-Pierre Plamondon pour ce qui est de la façon dont il a procédé avant son annonce de ce matin. Parce que PSPP, hier, on était vers la fin de l'émission du retour quand j'ai vu ça passer, puis ça venait juste de sortir, avait vraiment collé à shot de dire « déclaration importante par rapport à la tenue d'un référendum 7h30 ». Le choix des mots était clairement fait de façon consciente pour laisser un genre de doute et forcer tout le monde à être très attentif à 7h30 à matin. Il va-tu reculer, Paul Saint-Pierre Plamondon sur sa promesse de faire un référendum. Il va-tu annoncer une date? Il va-tu annoncer un genre de comité avec un président, un commissaire, appelez ça comme vous voulez? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Est-ce que le chroniqueur Antoine Robitaille dit, c'est que dans les rangs caquistes, dans les rangs de la CAQ, ça a fâché un peu ce matin parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, en forçant tout le monde à l'écouter puis à le lire, ben, il est venu écraser la nouvelle de Christine Fréchette qui règle le dossier de Churchill Falls. La conférence de presse qui était hier midi, on en a parlé pendant quelques heures en après-midi. Et là, boum, à partir du moment où Paul Saint-Pierre Plamondon colle la chotte qui va faire une annonce, une déclaration importante ce matin, ben, dans les médias, on ne parlait que de Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'est-ce qu'il allait annoncer ce matin? Il a pris le contrôle de la place médiatique, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, il vient annoncer grossièrement quelque chose qu'on savait déjà, à l'effet que il n'y aura pas de référendum sur la souveraineté tant que Donald Trump est au pouvoir. Moi, ça, c'était clair dans ma tête depuis le tout début, dans ma tête, puis même Donald Trump ou pas. Je me disais, un référendum se ferait pas dans la première année, dans la deuxième, même pas dans la troisième. Un référendum viendrait plus vers la fin du mandat. Et donc, la date de mémoire, c'est le 20 janvier 2029. C'est là que Donald Trump, officiellement, ne sera plus président des États-Unis. Donc, ce sera là le deadline. Jusqu'à après ça, jusqu'à octobre 2030, donc, avec les élections à date fixe aux 4 ans. Mais j'ai trouvé ça quand même habile de Paul Saint-Pierre Plamondon d'aller chercher comme ça non seulement l'attention, mais de venir clarifier. Maintenant, à quel point ça va vraiment faire une différence pour les indécis? Parce que, à mes yeux, ça ne change pas vraiment le narratif qu'on risque d'avoir des oppositions, des adversaires du PQ durant la campagne. Dans le sens où le référendum est encore une entre guillemets menace. Et les adversaires du PQ, clairement, vont continuer de pouvoir utiliser cette peur-là du référendum durant la campagne. Ça ne change pas du tout. Si Paul Saint-Pierre Plamondon annonçait ce matin qu'il reculait carrément sur un référendum, ben il y en a beaucoup qui pensent qu'il venait de gagner les élections majoritaires. Ça restait quand même un couteau à double tranchant dans le contexte où Paul Saint-Pierre Plamondon est aimé de bien des Québécois parce que c'est un gars de conviction, c'est un gars honnête. Puis s'il renonçait à sa plus grande promesse depuis des années et des années, c'est-à-dire tenir un référendum dans un premier mandat, ben il y en a qui auraient dit « Ouais, si on peut pas se fier à lui là-dessus, qui était son engagement, sa promesse numéro un », on peut pas se fier sur Paul Saint-Pierre Plamondon pour rien pantoute. Puis j'aurais été en partie d'accord avec ça. Fait que peu importe ce que faisait Paul Saint-Pierre Plamondon, il y avait des risques. Mais là, il est venu clarifier deux choses. Il y aura un référendum dans un premier mandat. Mais il faudra attendre au moins jusqu'en janvier 2029. Moment où Donald Trump, théoriquement, ne sera plus à la Maison-Blanche. Fait que ça, c'est ça qui retient beaucoup l'attention ce matin dans l'actualité. Curieux de vous lire au 418-971-1021. Pendant ce temps-là, Radio-Canada, ce matin, le journaliste Olivier Lemieux arrive avec un petit dossier, un petit article où clairement, il y a un angle qui, ou du moins, à mon humble avis, selon ma compréhension de tout ça, l'angle était un peu choisi, puis il a pris des citations qui allaient avec cet angle-là. Ça, c'est ce que je pense. Le projet de troisième lien d'Éric Duhaime, qui compterait, je vous rappelle, donc une voie dans chaque direction et passerait par l'île d'Orléans, ça fait vraiment pas l'unanimité chez les camionneurs. Donc, Radio-Canada, qui a entre autres jasé avec Carl Beaulieu, qui est cofondateur du média spécialisé On the Road. Lui, ce qu'il dit, c'est pas l'idée du siècle. C'est pas la solution qu'un camionneur voudrait avoir. Benoît Thérien de Truck Stop Québec, qui lui dit que le chef du Parti conservateur n'aura pas le choix d'améliorer le projet pour faciliter le passage des poids lourds. Ça vient un peu relancer le débat sur cette idée-là dont on avait parlé la semaine passée d'Éric Duhaime. Lui, ce qu'il dit, c'est « Ouais, dans l'état actuel des finances publiques du Québec, ben, on est aussi bien de se servir du nouveau pont qui est en train d'être construit entre Québec et l'île d'Orléans, puis d'aller attacher ça avec un autre pont pour ce qui est de la rive sud, entre donc Lévis et l'île d'Orléans, puis faire passer tout le monde là-dessus. Mais c'est sûr qu'une voie de chaque bord pour un troisième lien, ça va-tu vraiment aider tant que ça? Ou le monde va être encore autant pogné? » Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais bref, ce matin, puis peu importe l'angle que voulait donner à ça le média puis le journaliste, ben reste que les faits sont là, puis les citations de gens, de camionneurs, qui montrent que ça fait vraiment pas l'unanimité. Il y a Québec solidaire aussi qui fait jaser ce matin. QS qui abandonne l'idée d'une surtaxe pour les véhicules à essence puis va même reporter son objectif pour ce qui est de la réduction de gaz à effet de serre. Puis c'est intéressant de lire l'entrevue que Ruba Gazal a donnée au Journal de Québec où elle mentionne que Québec solidaire veut réviser son plan environnemental pour qu'il soit réaliste, mais toujours très ambitieux. Madame Gazal qui explique que le parti est conscient de la fatigue climatique, qu'elle existe et que les décisions ont été prises à ce niveau-là. Ça ressemble un peu à ce que voulait faire, je trouve, Gabriel Nadeau-Dubois avec QS, de ramener ça un peu au centre. Puis on est plusieurs à penser que c'est pour ça que Gabriel Nadeau-Dubois finit par partir. C'est pas juste pour des raisons familiales, c'est aussi qu'à un moment donné, lui voulait ramener QS plus vers le centre. Puis à partir du moment où il a bien vu que ça marchait pas parce que les militants prenaient le parti en otage pratiquement, ben lui, il avait plus rien à amener, puis il a sacré son camp, puis il va revenir dans une couple d'années, peut-être avec le PQ, à voir. Mais bref, tout ça pour dire que QS a peut-être enfin compris qu'il fallait revenir vers le centre si on voulait pas crever, puis finir avec zéro député en octobre. Du côté fédéral, le gouvernement qui abandonne officiellement l'obligation de vente de véhicules électriques, c'est la presse canadienne qui a rapporté en soirée hier qu'un avis publié dans la Gazette du Canada vendredi qui venait présenter un peu les grandes lignes du projet qui vise à abroger l'obligation qui aurait fixé comme objectif que les véhicules électriques représentent au moins 20 % des ventes automobiles au Canada cette année, objectif qui devait passer ensuite à 10 % d'ici 2035. Donc là, on dit qu'on veut prendre le temps de faire des nouvelles consultations avec l'industrie automobile, aussi avec les associations environnementales, et on voudrait arriver avec un nouveau projet de règlement d'ici début 2027, donc à suivre de ce côté-là. Au sport, après une série remportée en fin de semaine face aux Boulders de New York, place à une série face aux Miners de Sussex County pour les Capitales. Elle va se terminer cette série-là jeudi avec le match Boulevard 102-1. Bien hâte de vous y voir. Dans la MLB, les Blue Jays qui voudront continuer sur leur lancée qui les rapproche des éliminatoires avec une série de 3 matchs qui s'amorce face aux Rays de Tampa ce soir. Le Québec Tattoo Show est de retour au Centre de foire de Québec. Ça se passe en fin de semaine du 21 au 23 août. Une centaine d'artistes tatoueurs, une ambiance unique où se côtoient art corporel, culture alternative et performance originale, dont une tentative de record mondial, Guinness, pour le plus grand nombre de signatures tatouées sur un corps. C'est un projet Sign My Skin. Cette semaine, on fait tirer des certificats cadeaux de 250$ pour vous faire tatouer par les experts du Québec Tattoo Show. Et si ça vous intéresse, ben ça se passe au blvd.fm. On veut que vous nous racontiez votre projet de tatouage. Et restez à l'écoute. Aujourd'hui, la personne qui gagne, c'est 2 billets pour le salon et un certificat cadeau de 250$ au salon de tatouage Paradox. C'est Maxime Pouliot. Puis son projet de tatouage, ben c'est qu'on a carrément un cover ou une amélioration du tatou déjà existant. Donc, Boulevard qui vous invite à vivre l'expérience du Québec Tattoo Show et qui sait, peut-être repartir avec un nouveau tatou. On n'est jamais à l'abri.
Le point de Max. Le point de Max.
Ça fait réagir cette nouvelle dans le journal ce matin. Katy Perry et Justin Trudeau, qui bénéficient d'une protection policière, nous dit-on, mondiale, aux frais des contribuables québécois. Puis là, ça fâche bien du monde, évidemment, parce que il y a des gens qui sont jaloux, mais il y a aussi des raisons, j'ai envie de dire, légitimes de se poser des questions par rapport à cette nouvelle-là quand tu vois Justin Trudeau vivre sa best life avec Katy Perry, qui, on s'entend, a déjà une équipe de sécurité. Oui, pour elle, mais me semble qu'on pourrait s'arranger pour que son équipe de sécurité à Katy s'occupe aussi du beau Justin. Là, je pense qu'elle a les moyens pour ça. C'est trois sources bien au fait du dossier qui ont confirmé au bureau d'enquête du journal que des agents de la GRC accompagnaient toujours régulièrement l'ex-premier ministre Trudeau pour veiller à sa sécurité. Faut dire que, tu sais, des Mulroney, Chrétien, Harper, ils ont tous profité d'une protection de la GRC quand ils ont quitté leur poste. Il y en a qui ont refusé, Joe Clark, John Turner. Mais, comme je dis, dans le cas de Trudeau, c'est parce qu'on le voit aller, là. Il vit sa best life. Il est avec une des plus grandes stars du monde, de la pop au monde. C'est-tu vraiment nécessaire? Il y a une des sources qui résume que Justin Trudeau utilise la GRC comme une agence de sécurité privée, qu'il s'agisse d'un voyage à caractère politique ou d'un séjour purement personnel, et certains déplacements peuvent mobiliser 3-4 représentants de la police fédérale sur le terrain. D'après moi, les agents de la GRC auraient autre chose à faire. Comme je dis, d'après moi, les agents de Katy Perry, au privé, seraient capables de s'occuper de notre ticlin Justin aussi. Mais ça, ben, vraisemblablement, Justin Trudeau s'est dit « Hey, hein, ouais, moi j'ai le droit à une protection de la GRC. Je serais fou de ne pas prendre ça. » Puis en effet, il a le droit, puis il le fait. Puis tant mieux pour lui. Mais je comprends que ça puisse frustrer des gens. Hey, je termine en vous rappelant les belles annonces qu'on vous a faites ce matin dès lundi prochain, 24 août. Boulevard 102.1 qui bonifie sa grille pour la rentrée avec l'arrivée de deux voix bien connues de la radio parlée, Nico Lacroix et Catherine Saint-Laurent. Nico Lacroix qui va rejoindre l'équipe Don en jase avec Jeff Fortin, mais aussi moi-même, Max Larouche. J'ai le plaisir de me joindre à l'équipe d'On en jase de midi à 14h. Et ça veut donc dire que je quitte l'équipe de Marceau le matin. Puis enfin, il y aura une femme dans cette équipe-là. Ça va faire du bien, l'excellente Catherine Saint-Laurent, un jeune talent que j'ai très hâte de côtoyer aussi dans le Point de Max de 10h à midi. Fait que Kat Saint-Laurent qui s'en vient dans Marceau le matin et dans le Point de Max de mon bord. Oui, ce sera maintenant de 10h à 14h que vous pourrez m'entendre. 2h dans le Point de Max, 2h dans On en jase. Mais Marceau va être aussi poigné que moi de temps en temps, même tous les jours, parce que j'aurai ma chronique sportive tous les jours dans Marceau le matin. Puis même affaire, les sports, ça se poursuit dans Gravel dans le retour pour moi. Fait que vous pourrez littéralement m'entendre dans tous les shows à Boulevard. Puis moi, ben, je vais pouvoir dormir un petit peu plus longtemps le matin. Fait que tout le monde est content. L'excellente Kat Saint-Laurent, une voix féminine s'amène dans Marceau le matin avec Marceau et avec Jeff Fortin. Puis de notre bord, ben, on va se retrouver tous les jours pour une chronique de sport dans Marceau le matin avant de commencer le Point de Max à 10h. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Jeff s'en vient avec Mathias. Les nouveautés, je vous rappelle que c'est pour lundi, le 24 août, dès 5h30. Puis nous, on se dit un gros ciao, bye, salut!
Restez là!